Pratique, moi je ne l'ai pas écrit.
Bonjour à tout le monde. Mesdames, Messieurs, je salue la salle et je salue aussi les journalistes et les collègues qui suivent de leur bureau la présentation transmise par le webstream du Parlement européen. J'ai décidé aujourd'hui au Parlement européen de rendre public les articles de San José. Cette charte a été élaborée cette année au printemps par un groupe international d'experts engagés dans la science, le droit, la jurisprudence et le travail législatif à tous les niveaux institutionnels. Notre but est d'informer et de sensibiliser l'opinion publique à propos du droit à la vie. L'article premier des 9 articles de San José stipule « Il est de fait scientifique qu'une nouvelle vie humaine commence dès la conception ». Le 18 octobre 2011, ce constat a été reconnu dans l'acquis communautaire. La Grande Chambre de la Cour européenne de justice a en effet arrêté que la vie humaine commence dès la conception. Hier, lors de questions orales à la Commission européenne, le commissaire Barnier a reconnu qu'aujourd'hui, les services de la Commission européenne ne peuvent encore apprécier à leur juste valeur les conséquences politiques de cet arrêt. Mais il est évident que nous sommes désormais tenus de protéger le développement de la vie des futurs citoyens de leur conception. À présent, cet arrêt doit être pris en compte, d'une part, dans la relation entre les États membres au sein de l'Union. D'autre part, cet arrêt doit être respecté dans de futures négociations d'adhésion. De plus, il doit être respecté dans les relations avec les États tiers, ne doit être négligé lors de l'élaboration de la position commune de l'Union à l'ONU et le conditionnement de l'aide au développement. L'Europe a désormais un devoir envers la vie humaine dès sa conception. C'est un très beau devoir. Les articles de San José sont notre boîte à outils pour le mettre en œuvre. Les articles de San José devraient apporter un soutien à l'effort de sensibilisation. Tous les collègues adhérents sont invités à signer les articles. Je laisse maintenant la parole à Maître Grégoire Pupping, directeur du Centre européen du droit de la justice à Strasbourg. Je vous en prie.
Merci beaucoup, Madame la députée. Merci au Parlement européen d'organiser cette conférence de presse aujourd'hui pour faire connaître et présenter les articles de San José. Effectivement, il y a une concordance entre le contenu de ces articles et l'arrêt de la Cour de justice européenne sur le brevetage des embryons. Donc la tenue de cette conférence aujourd'hui a une portée très significative à cet égard. Le texte des articles de San José que nous allons vous présenter a été écrit au mois de mars. C'est un processus qui a été engagé il y a déjà plusieurs mois. Et finalement, quand on le compare avec la décision de Luxembourg, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une unité de vue et d'analyse. Ce que je souhaite d'abord bien faire comprendre, c'est que ce texte de San José n'est pas une prise de position. Ce n'est pas un statement. Ce n'est pas un political statement. Ce n'est pas une affirmation, ce n'est pas une opinion. C'est tout sauf ça. Le but de ce texte est d'être une analyse de la réalité. Donc ce n'est pas un texte qui se veut idéologique ou qui se voudrait politique. C'est un texte qui a été élaboré par des personnes scientifiques dans le domaine médical, par des personnes scientifiques dans le domaine du droit, des universitaires, des juristes, et aussi par quelques hommes politiques ou diplomates qui connaissent le débat au niveau international. Donc c'est un texte qui se veut, qui souhaite refléter autant que possible la réalité du droit et la réalité des faits concernant la vie. Et c'est parce que ce texte est attaché à rechercher quelle est la vérité du droit et de la vie qu'il se retrouve, on va dire, en concordance avec l'arrêt de Luxembourg. Parce qu'ils ont tous les deux, l'arrêt de Luxembourg et ce texte, la même inspiration, qui est de rechercher objectivement quelle est la réalité du droit et quelle est la réalité du développement humain au stade embryonnaire. Et donc ils sont d'accord dans le constat objectif que la vie commence dès la conception et qu'on ne peut pas interrompre, on va dire, arbitrairement ce processus pour définir une norme ou une date à partir de laquelle on pourrait changer subjectivement la réalité. Donc finalement, les articles Sonne-Rosé et l'arrêt de Luxembourg sont d'accord parce qu'ils partagent un même point de vue qui veut être le plus objectif et le plus scientifique possible quant à l'état des connaissances scientifiques et quant au droit. Ça, c'est fondamental. Il est vrai que l'arrêt de Luxembourg, comme ses articles, sont discutés. Depuis longtemps, il y a une tendance, et c'était la cause de l'élaboration de ces articles, à vouloir développer un discours au niveau international qui est, lui, basé essentiellement sur une vision subjective de la science, du droit et de la liberté individuelle. Ça veut dire qu'il y a un discours politique, et ça il ne faut pas l'ignorer, un discours idéologique relatif à l'avortement, qui se heurte ou qui s'est heurté aux normes, aux droits existants, et qui essaye, que ce soit au sein des Nations Unies, des comités des Nations Unies, ici à Strasbourg, au Parlement européen, à la Cour européenne des droits de l'homme, qui essaye d'introduire, contre la réalité des normes en droit international et contre la réalité scientifique, des distinctions subjectives visant à permettre l'introduction progressive d'une forme de droit à l'avortement. Donc il y a d'un côté une volonté politique très claire, idéologique très claire, d'introduire par les mécanismes internationaux un prétendu droit à l'avortement, en modifiant et en introduisant des critères subjectifs ou des seuils subjectifs dans l'évolution du processus de vie depuis la conception jusqu'à la naissance, et de l'autre côté, une autre tendance qui essaye de voir objectivement la réalité des choses, tant juridiquement que scientifiquement, et ces articles en font partie. Alors, personnellement, donc j'ai participé à l'élaboration de ces articles, et simplement ce que je voudrais expliquer quant à leur contenu est le suivant. Fondamentalement, il y a des personnes qui essayent qui affirment l'existence d'un droit autonome à l'avortement. En tant que juriste et connaisseur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, essentiellement, c'est à ce titre que j'ai intervenu dans l'élaboration de ce texte, le point fondamental qu'il faut retenir pour bien comprendre la problématique de la protection de la vie au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, le point fondamental est le suivant. Premièrement, il faut écarter l'idée qu'il existerait dans la Convention un droit autonome à l'avortement. La Cour a dit très clairement qu'il n'y a pas de droit à l'avortement basé sur la Convention, que ce soit fondé sur le droit à la vie, naturellement, ou sur le droit à la vie privée, article 8, l'autonomie de la personne. Ça n'existe pas. En revanche, ce qui existe depuis le départ, c'est une obligation pour les États de protéger la vie. Tous les États ont l'obligation de protéger la vie au titre de l'article 2 de la Convention. Cette obligation peut être interprétée par la Convention et par les juges de façon plus ou moins extensive. Mais le point de départ, le socle des obligations des États en matière d'avortement ou de protection de la vie, est l'obligation de protéger la vie, point. Cette obligation, ensuite, peut être modulée, l'étendue de cette obligation positive peut être modulée dans le cadre de ce qu'on appelle la marge d'appréciation. Ça veut dire qu'un État n'est pas obligé, par exemple, de tout mettre en œuvre pour sauver quelqu'un qui est atteint de maladie grave. Il a des moyens limités. Donc l'obligation de l'État de protéger la vie de la personne n'est pas totale. La Cour a jugé dans différentes affaires qu'elle peut aussi être limitée quant à la période de son début. L'État ne serait pas, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, obligé de protéger la vie dès le départ. Maintenant, la question touche aussi à la fin avec l'euthanasie. Mais quoi qu'il en soit, le principe fondamental est que, au regard de la Convention, au regard du droit international des droits de l'homme, les États ont toujours d'abord l'obligation de protéger la vie. Et ça, c'est un principe contre lequel on ne peut pas aller. Ensuite, dans cette obligation de protéger la vie, l'État peut éventuellement y apporter des limites. Mais ces limites elles-mêmes ne sont pas sans limites. Ça veut dire que ces limites elles-mêmes, si l'État décide en Europe d'autoriser l'avortement, il doit le faire, et la Cour l'a dit souvent, dans le respect d'autres intérêts, des intérêts concurrents. Ça veut dire qu'il doit le faire dans le respect, par exemple, des intérêts de la société. Récemment, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation visant à interdire clairement l'avortement sélectif basé sur le sexe. Donc, tous les États européens, s'ils décident, dans leur marge d'appréciation, d'autoriser l'avortement, ne peuvent pas le faire jusqu'au point de permettre l'avortement sélectif sur le sexe. Il y a une limite. De même, il faut aussi respecter, par exemple, le droit des parents, ou le droit des mères, le droit des pères. La Cour a aussi reconnu l'importance de respecter la morale, l'éthique de certains pays, etc. Donc, l'idée selon laquelle il existerait un droit fondamental autonome à l'avortement est strictement incompatible et contraire à la fondation même du système de protection des droits de l'homme tel qu'il existe ici à Strasbourg, à la Convention, et tel qu'il existe aussi dans les autres instruments internationaux, puisque tous les instruments internationaux partent du point de départ que l'État a l'obligation de protéger la vie des personnes. Voilà un petit peu ce qu'on peut...
Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à, je voudrais bien le donner à M. Roger Pichka, Senior Conseil Alliance de France Fund, qui apportera quelques éléments supplémentaires. Je vous en prie.
Thank you. It's a pleasure to be here with you today. There's not much more to say that my colleague Gregor hasn't already elaborated on. It's clear, not just from the San Jose articles, but just from international law, that there is no international human right to abortion. We must recall the history of where these fundamental human rights documents came from, the European Convention, the Declaration of Human Rights, etc., and why in all of these documents the right to life has a primary spot, always at the top or near the top. And that's because of the totalitarianism that we as a global family lived through during World War I and World War II. Yet in 2011, we find that the most dangerous place still for a child is in their mother's womb, that we still have forced abortion in the world. We have abortion targeting the disabled. We have sex-selected abortion, where little girls are most targeted in their mother's womb. We've forgotten that the principle of respect for subsidiarity and national sovereignty requires us to respect the rights of member states to protect children from conception, until natural death, that the European Court of Human Rights elaborated this recently in its decision in ABC v. Ireland at the Grand Chamber level. It reiterated its decision in Vaux v. France. Of course, just last week, the European Court of Justice ruled that a fertilized embryo is a human being. This is something that the European Patent Office had already put in place several years ago, so this isn't anything new. It's a restatement of international law. Yet, independent states are still still fighting tooth and nail to protect their right to maintain laws protecting life, and that's unacceptable. And that's why the San Jose articles are so important, because it reminds us of what the black letter law says, what the spirit of the treaty law says, and that we cannot allow the life position to be bullied any longer, because it's not the law. Thank you.
Merci beaucoup, Roger. Et maintenant, nous avons quelques minutes pour vos questions, alors je vous en prie. OK. Alors, si ça n'est pas le cas, je vous... Ah oui, monsieur.
Comment expliquer, au vu des différents éléments que vous citez et qui pour certains ne sont pas de nouvelles affirmations, notamment quant au début de la vie, comment expliquer les dérives qui se sont accumulées ces dernières années au point d'en arriver où nous en sommes aujourd'hui, par rapport justement au droit à la vie? Est-ce que, comment expliquer justement que par quelle volonté il y a derrière cela soit de maîtrise de la vie, soit d'orientation volontaire du droit à la vie, idéologique on pourrait dire.
Merci beaucoup, Grégoire.
Alors je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Effectivement, il y a c'est un peu philosophique, mais derrière le droit, il y a nécessairement une certaine conception anthropologique de la personne. Et le droit, tel qu'il a été élaboré, les droits de l'homme, tels qu'ils ont été élaborés et formulés après la Seconde Guerre mondiale, repose sur une conception anthropologique de la personne qui est héritée de toute la tradition des Lumières, mais plus généralement la tradition de ce qu'on appelle la modernité, l'époque moderne. Aujourd'hui, avec le développement à la fois de l'individualisme et du technicisme ou des sciences, d'une certaine manière, la conception de l'homme, l'anthropologie, en Occident, a évolué dans un sens, on va dire, moins naturel. L'homme est moins considéré comme une réalité naturelle qui échappe à notre agir. Et donc on considère que le droit doit être lui aussi un système permettant d'augmenter la liberté individuelle contre notre propre nature. C'est assez compliqué, mais disons que c'est cette idée que finalement on n'est plus dans l'idée de respecter la nature de l'homme, mais dans l'idée de la changer. Et le droit serait un instrument de cette forme de libération de l'homme à l'égard de sa propre nature, ce qui est une espèce de rêve prométhéen assez catastrophique et très idéologique, et sur lequel clairement le droit n'est pas fondé aujourd'hui. Sinon, plus généralement, comment concrètement au niveau législatif ou juridique, la reconnaissance progressive de ces droits et libertés en matière d'avortement s'est faite. Je pense qu'il y a un processus important à comprendre en droit international, c'est cette interaction entre ce qu'on appelle les soft laws et les conventions. Il y a d'un côté le texte qui existe, donc les conventions, qui c'est du vrai droit et qui impose des normes, et de l'autre, en amont, un ensemble de normes qui s'élaborent et qu'on tente progressivement d'en faire entrer dans ce corpus de droits obligatoires. Donc il y a ce jeu entre les deux. Et aujourd'hui, très clairement, au sein des Nations Unies, comme au sein de la plupart des organisations internationales, il y a en tout cas une partie importante du personnel de ces organisations qui essaye de, avec bonne foi et bonne volonté, de faire évoluer le droit mou, le soft law, en y intégrant des droits nouveaux ou de pseudo-droits nouveaux, notamment en matière d'avortement. Donc c'est ce jeu entre le droit mou, le droit en élaboration, et le droit dur, les conventions, qui, on va dire, est vraiment essentiel actuellement. Et c'est là-dessus que se fait la bataille aujourd'hui. Au sein des agences des Nations Unies, ce sont ces organes qui n'ont pas d'autorité législative, qui n'ont pas d'autorité d'État, qui n'ont pas de capacité à émettre des normes, qui néanmoins prennent la liberté de prendre des positions et essayent progressivement de transformer ces positions en droit dur. Et ensuite, vous avez des États qui sont parfois petits, qui n'ont pas forcément les moyens politiques, juridiques et diplomatiques de se faire leur propre opinion, qui vont accepter, on va dire, ce que disent un petit peu les oracles des Nations Unies ou de Strasbourg, et qui vont croire finalement ce que disent les experts. Donc d'une certaine manière, les articles de San José, c'est une réponse d'experts qui se veut objective sur le droit et la science, à des discours d'autres experts qui, selon nous, sont très clairement guidés par cette idéologie du droit à l'avortement.
Oui, merci beaucoup. Merci. Grégoire, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous souhaite une très belle journée. Merci et merci aux interprètes. Merci beaucoup.